Merci. Donc, je commencerai peut-être par deux préalables. Le premier préalable, effectivement, ainsi qu'il a été rappelé, voilà, je vais parler plutôt en position de chercheur, ce qui correspond au travail que j'effectue. C'est-à-dire que, pour moi, il s'agit plus d'essayer de connaître, de décrire, d'analyser, en tout cas, pas de prescrire quoi que ce soit. Donc ça veut dire que voilà, ce sera à vous de vous en emparer ou de ne pas vous en emparer. Mais je crois que les experts sont ceux qui sont sur le terrain et qu'il n'y a pas de choses aussi facilement que ça qui soit généralisable. Sans ça, ça se saurait depuis longtemps et les gens qui auraient les solutions seraient infiniment riches. Deuxième remarque, historiquement, je suis plus fondamentalement un spécialiste de didactique du français, comme il a été rappelé, de didactique de l'écrit. Ce n'est que depuis peu de temps, finalement, en termes d'années, que je travaille sur le décrochage. Donc voilà, il faut aussi... ça vous permet de réfléchir et d'avoir une distance critique par rapport à ce que je suis susceptible de dire. Je suivrai le plan suivant. Je commencerai par vous parler des relations possibles entre décrochage et école, puis entre école, culture écrite et décrochage. Et puis après, j'explorerai quelques pistes de réflexion autour des interventions possibles sur les problèmes relevés. Et notamment, ainsi qu'il était annoncé dans le texte de présentation que vous avez reçu, mais ça correspond à une commande qui m'a été faite, autour des questions, par exemple, de vocabulaire, de rapport à l'écrit, ou de principes didactiques ou pédagogiques. Voilà. Alors, sur les relations possibles entre l'école et le décrochage, je commencerai par quelques remarques sur la notion de décrochage, voilà, qui s'articule en partie à ce que mes collègues ont pu dire. Ma première remarque, c'est que le phénomène n'est pas nouveau. On en parle beaucoup, mais c'est loin d'être nouveau. Dans les années 70, 200 000 jeunes quittent le système éducatif sans diplôme. Avant la fin des années 70, on quitte plus précocement l'école. Je rêvais aux vacances. Il y a un absentéisme important pendant des périodes comme celle des vendanges, des moissons, etc. Et c'est pas forcément vécu comme quelque chose de négatif. Ça peut être vécu comme une marque de solidarité familiale, de courage des enfants, etc. Ce qui ne veut pas dire que le problème n'existe pas quand je dis ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un phénomène nouveau et apocalyptique, quoi. Deuxième remarque, c'est un phénomène international. Au travers des enquêtes dont on dispose, tous les pays sont touchés avec des causes très, très diverses. Si on reprend les critères d'abandon précoce du système scolaire, il y a des pays où les gamins sont franchement contraints. Le problème ne se pose pas de continuer les études. Troisième remarque, en fait, différents phénomènes sont désignés sous le même terme selon les enquêtes, ce qui explique des variations considérables de chiffres. C'est-à-dire, ça peut être la relation entre sortie et diplôme. Dans ce cas-là, par exemple, on regarde soit les sorties sans diplôme, soit les sorties avant avec uniquement le brevet, etc., des choses comme ça. Mais ça peut être fondé sur le critère de l'absentéisme. Et là, il y a des débats à partir de quel moment on considère que l'absentéisme est important, n'est pas important, etc., etc. Mais, et le terme a été employé, l'expression a été employée ce matin, ça peut être aussi sur des critères radicalement autres quand on parle de décrochage cognitif. Ça n'a plus rien à voir quand on parle d'élèves présents absents. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que avant on disait, ben voilà, c'est des élèves qui suivent pas, qui sont pas attentifs, si vous voulez. comme avant, on pouvait dire d'hyperactif, que c'était plutôt des tape-merdes et des élèves chiants, si vous voulez. Il y a des évolutions intéressantes à suivre de ce point de vue-là. Et donc, il faut se garder aussi de prendre des catégories qui émergent dans les discours sociaux comme forcément des catégories absolument, qui renvoient à des référents absolument nouveaux. En tout cas, les termes sont très différents et c'est intéressant selon les travaux des chercheurs qu'on suit. Parce qu'on voit bien que selon les termes employés, c'est peut-être pas exactement la même chose qu'on éclaire. On parle de décrochage, on parle de désengagement, on parle de désaffiliation, on parle de démobilisation scolaire, on parle de déscolarisation, certains parlent de désertion. Tant pis pour ceux qui aiment bien les déserteurs. Certains parlent d'évasion. Tant pis pour ceux qui aiment bien les évader. Certains parlent d'anorexie intellectuelle. Hein, c'est assez marrant. Je n'invente rien. Je reprends des termes qui existent. Donc, du coup, vous voyez que c'est intéressant, ces termes et ces expressions, parce que ça veut dire que, voilà, il y a des débats. Il y a des débats. Et que, du coup, les chiffres peuvent varier de manière très très importante, hein. Comme ce fut le cas à une autre époque pour les chiffres qui concernaient l'illettrisme. Hein. Je vous rappelle qu'un des rapports les plus corrosifs sur cette question a été le rapport Lay et Noisette qui disait le nombre d'illettrés, le chiffre qui s'accroît quand on s'en sert. Voilà, ça permet de réfléchir à certains problèmes, notamment par exemple à la relation entre construction d'un problème social et crédit possible pour les recherches ou les dispositifs. En tout cas, indéniablement, c'est un phénomène important, mais particulièrement flou et complexe à définir. Ayant posé cela d'une manière qui peut être critiquée, hein, il existe quand même, à lire les travaux qui existent, quelques consensus. Le décrochage s'inscrit dans une histoire des sujets dans une dynamique souvent longue, complexe, en partie immergée. Le décrochage n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est une histoire souvent d'affrontements, de souffrances, de ruptures. Selon les théoriciens, on va parler d'un vécu de victime ou d'un vécu de résistant. Là, c'est assez intéressant. J'ai pas de position là-dessus, mais je trouve que les deux éclairages sont des choses intéressantes à avoir en tête. Deuxième consensus, il y a multifactorialité. Il n'y a pas une seule cause. Et globalement, voilà, en simplifiant, on considère qu'il y a trois systèmes constamment en interaction. Le système de la personne elle-même, le système du milieu familial et du milieu social, les deux étant à différencier quand même, et puis le milieu scolaire. Ils sont en interaction. Ils sont en interaction. Et tout décrochage est le résultat d'une série de transactions entre ces systèmes. Ça, je crois que c'est intéressant d'avoir ça en tête. Au troisième consensus, au sein de cette histoire complexe, l'école tient la plupart du temps une place non négligeable, bien sûr. Un théoricien qui n'a pas sa langue ou sa plume dans sa poche, Jacques Pin, a employé l'expression qui est maintenant reprise et qui est assez marrante, qui est, il parle du décrochage comme d'une maladie nosocomiale de l'école. C'est intéressant à réfléchir de ce point de vue-là. En tout cas, il y a des facteurs structurels. Par exemple, la construction de l'échec, la manière dont on conçoit le redoublement, les orientations imposées, les filières de relégation, les phénomènes de harcèlement, de violence qu'on retrouve plus ou moins, et des facteurs pédagogiques aussi, comme ce qui est de l'ordre des climats, de l'accent porté sur la compétition, les modes d'interaction prof-élève, le manque de clarté des règles, la gestion des temps et la plus ou moins grande bienveillance qui existent dans le système pédagogique mis en place. Alors, quelques remarques sur la construction donc des relations possibles entre école et décrochage. Dans la perspective classique de nombre d'études sur le décrochage, l'école n'est pas vue positivement. Ce qui est légitime. Néanmoins, beaucoup d'élèves ne décrochent pas. Et beaucoup d'élèves aiment l'école et ont envie d'y aller. Vous savez, je crois qu'il faut toujours regarder les deux côtés. Hein. Il est de bon ton, par exemple, de dire que au moins 2 élèves sur 10 rentrent en sixième avec des difficultés par rapport à l'écrit. Les chiffres sont discutables et discutés très largement. Mais ça veut dire aussi que 8 élèves sur 10 rentrent sans trop de difficultés. Hein. C'est, voilà. Il est bon d'avoir toujours les deux approches hein, avant de prononcer des choses définitives. Ce qui veut dire que peut-être faut-il chercher au sein de l'école les leviers qui marchent. Seconde remarque, l'école, dans la plupart des études sur le décrochage, et ça c'est pour moi un vrai problème, surtout autant que didacticien, l'école est vue comme un tout relativement indifférencié, notamment sur la question des contenus et des matières. Donc ça veut dire que l'élève décrocherait de tout en même temps, ce qui est une absurdité. Ce qui est une absurdité. De ce point de vue-là, voilà, il y a un gros vide dans les études et c'est ce sur quoi à Lille on a commencé à travailler. Mais c'est quand même quelque chose de relativement inquiétant que ces approches-là puissent être partagées par un certain nombre de chercheurs. Troisième remarque, les stratégies sont de prévention souvent ou de remédiation. Bon, alors la prévention c'est bien, je veux dire, difficile d'être contre. Hein. Alors avec le fait quand même que immédiatement on va chercher à repérer des populations à risque, avec tous les dangers que ça présente, hein, les populations à risque, et puis qu'on va confondre prévention du décrochage et puis enseignement. De la même manière qu'à un certain moment, l'enseignement normal de la lecture-écriture a pu basculer du côté de la prévention de l'illettrisme. C'est, je veux dire, il y a quand même là un problème. Et remédiation et raccrochage, on va créer des classes spéciales, des dispositifs, des écoles de la deuxième chance, des micro-lycées. C'est-à-dire qu'on va en quelque sorte externaliser les modalités de remédiation. Bon. Alors, là, c'est interrogeant sur les fonctionnements normaux courants de l'école et ce que préconise l'institution. Parce que finalement, dans ce qui est préconisé, d'une manière ou d'une autre, ça consiste à réintroduire ou à s'appuyer sur des innovations didactiques ou des pédagogies alternatives qui ne sont pas inscrites dans les fonctionnements normaux de l'école. On est là sur un paradoxe effarant de l'école française qui dure depuis des décennies. Ça ne marche pas, on préconise des solutions qui sont pratiquées, mais qu'on ne veut pas voir pratiquées dans l'école. Bon, il y a un moment, il faut réfléchir aussi au niveau politique, hein, au niveau politique, à ce qu'on fait. Ça doit être possible. Alors, j'en viens maintenant au deuxième grand point que j'annonçais, les relations possibles entre école, culture écrite et décrochage. Et là, je veux aussi, il va y avoir, vous allez voir, des échos certains avec ce qui a été dit par mes collègues. Alors, quand on parle de culture écrite, de quoi parle-t-on, hein ? Alors, certains parlent effectivement de littératie. Bon, le terme s'est beaucoup répandu. En fait, on fait référence aux travaux d'anthropologues, il y en a beaucoup, ils discutent entre eux, c'est pas consensuel, mais il se trouve qu'un des plus connus est Jacques Goudy, qui a été évoqué, qui a écrit « La raison graphique », qui est un très beau livre, et qui a consacré donc une partie de son œuvre à étudier les différences entre les sociétés de culture orale, et les sociétés de culture écrite. C'est l'objet de son travail. Il ne travaille pas particulièrement sur l'école. Hein. Quel est le point fondamental de ces thèses susceptibles de nous intéresser ici? C'est le fait que le passage d'une culture de l'oral à une culture de l'écrit n'est pas un simple changement technique, n'est pas un simple changement de mode de communication, mais un changement profond dans les manières de penser, un changement radical dans les manières de penser, pour Jack Goody, et dans les fonctionnements sociaux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que il faut comprendre qu'on sort des conceptions qu'on a encore dans beaucoup de discours sociaux et scolaires, conceptions type Boileau, conceptions 17e-istes, c'est-à-dire l'écriture permettrait de transcrire ce qui est pensé antérieurement. Donc, mieux c'est pensé antérieurement, si vous voulez, voilà, plus on va pouvoir écrire clairement, les choses sont assez simples. Or, justement, ce qu'introduit Goody et d'autres, d'ailleurs, c'est une plus grande complexité des rapports pensée-langage, et notamment le fait que l'écriture a une fonction heuristique, ou cognitive, ou constructive, peu importe le terme que vous employez, c'est l'idée qui est importante. C'est-à-dire que l'écriture participe de la construction de ce qu'on pense, et de la modification même de la manière de penser. Ça permet de penser autrement. Ça permet d'effectuer des opérations de pensée plus complexes. Ça permet de modifier ce qu'on pensait penser. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Il ne s'agit pas de le dire, ce n'est pas un slogan. Pourquoi ? Ben parce que l'écriture permet de conserver à l'identique. Donc de décharger la mémoire pour d'autres tâches. Ça permet aussi d'accumuler, et donc permettant d'accumuler, d'examiner, de comparer, d'analyser, y compris le langage lui-même, ce qui n'est pas le cas aussi simplement dans les sociétés de pensée orale. Les dictionnaires, les grammaires se développent, effectivement, avec le langage écrit. Les notions de mots, de phrases sont tributaires de ça. Ça permet de manipuler des unités de plus ou moins grande importance. Ça permet de formaliser ce qu'on pense sous des modalités différentes, de manière linéaire ou de manière tabulaire, par exemple, sous forme schématique, sous forme iconique. Ça permet d'effectuer des opérations d'abstraction à plusieurs niveaux. Quand je fais une recherche, je vais catégoriser en donnant un nom. Et puis je peux recatégoriser en codant, vous voyez ? Bon. Ça permet aussi d'élargir les communautés de dialogue. Je sors de la situation, ici et maintenant, pour dialoguer avec des gens du passé, du futur, d'autres pays, etc. Donc, on prend de la distance avec l'immédiateté. Et puis, du coup, ça va permettre de développer des institutions qui n'existaient pas, ou du moins pas sous cette forme, auparavant. L'État, l'école, l'édition, le droit, qui n'est plus simplement un droit coutumier, etc. Donc voilà, c'est un changement de culture. Et je vais y revenir sur ce que ça veut dire. Quelques remarques maintenant, parce que beaucoup de gens n'ont pas forcément lu Goody dans le texte, pour le dire vite, et interprètent un peu rapidement certaines de ses thèses. Il n'y a pas chez Goody, et c'est important pour le sujet qui nous préoccupe ici, il n'y a pas de hiérarchie orale-écrite. L'oral, c'est une autre manière de penser, et il y a des formes de pratique de l'oral tout aussi complexes, Et chacune des modalités anthropologiques de l'oral ou de l'écrit a ses intérêts, a ses limites, a ses dérives, si vous voulez. Bon. Donc, attention à ça. Il ne s'agit pas de hiérarchiser oral écrit. Deuxième remarque fondamentale, on est dans une société de l'écrit. Vous savez, à un moment, on disait, ouais, société de l'image. Non, on est dans une, historiquement dans une société de l'écrit. Ce qui veut dire que, quand on parle de gens en difficulté face à la culture écrite, voire d'illettrés, c'est dans une société scripturalisée. Donc avec des êtres qui sont, qui ont été en contact avec l'écrit, et les enquêtes sociologiques, anthropologiques, ethnologiques montrent qu'il existe des tas de formes de contact d'écrit, y compris dans des métiers très manuels. Hein. Vous avez des tests très intéressants, par exemple, sur les pratiques de l'écrit chez les maçons, etc. etc. Bon. Troisième remarque, il est difficile de parler de littératie ou de culture écrite au singulier. Ce qui existe, ce sont différentes littératies ou différentes cultures écrites qui varient selon les sphères socio-institutionnelles. C'est-à-dire que ça va varier dans, en fonction des, il va y avoir des genres et des pratiques différentes, il va y avoir des conditions de possibilités différentes. Dans les différentes sphères, n'importe qui n'écrit pas n'importe quand et n'importe comment. Il y a des formes d'exercice. Bah, on va pratiquer l'écrit de manière très différente. Il y a des fonctions et des usages différents. Il y a des effets différents. Et y compris dans la même sphère socio-institutionnelle, les formes de littératie ou de culture écrite peuvent être en conflit. Un exemple que tout le monde va comprendre ici. Les élèves peuvent pratiquer la culture écrite sous forme de graffiti, et c'est pas forcément ce que préfère l'institution scolaire. On est bien là dans une forme de conflit de culture écrite. Du coup, voilà. Est-ce qu'il faut, en quels termes faut-il penser une fois qu'on a dit ça? Est-ce qu'il faut penser en termes de maîtrise de la langue? J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire entre nous. Bon. Ou est-ce qu'il faut penser en termes d'univers de l'écrit, en termes de pratique, etc. Mais cette entrée-là, en tout cas, signifie que la maîtrise de la culture écrite est toujours inachevée, imparfaite, et donc engendre de l'insécurité qui est normale. Ayant posé ça, je crois qu'il faut avoir en tête, pour ce qui nous préoccupe ici, qu'il existe des liens structurels entre école et culture écrite. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, l'écrit va permettre l'école et son développement, historiquement. De la même manière et en interaction que l'école va permettre de développer l'écrit, la lecture, l'écriture, l'alphabétisation, même si le mouvement avait été entamé auparavant. L'école fonde les apprentissages, contrairement aux univers professionnels ou familiaux qui existaient, fonde les apprentissages sur le langage et sur l'écrit. C'est une des particularités de ce que Guy Vincent appelle la forme scolaire. Donc on sort des situations d'apprentissage où il s'agissait d'imiter, de regarder, etc. L'école se fonde aussi énormément sur des évaluations écrites. L'échec scolaire, c'est souvent donc un échec par rapport à l'écrit. Et l'école développe, au travers de ces maniements de l'écrit, certaines formes de rapport au langage. Et au-delà, au monde. C'est-à-dire un rapport qui se veut distancié, qui ne se veut pas immédiat. Lahir parle d'un rapport scriptural scolaire. C'est, voilà, ça, bon, on voit si on adhère, si on n'adhère pas. En tout cas, l'expression permet de faire penser. Alors, quelques conséquences et quelques réflexions de ce que je viens de dire. Ce qui est à s'approprier à l'école en termes de contenu, de culture écrite, ne se réduit pas à des codes ou à des techniques, mais est de l'ordre d'apprentissage culturel et d'acculturation. C'est-à-dire de manière de dire, de penser, d'agir. En d'autres termes encore, penser que les blocages seraient purement techniques semble, dans ce cadre-là, relever d'un leurre. Donc penser que les remédiations pourraient être simplement techniques, même chose. D'une autre manière, hein, on revient aussi vers des choses qui avaient avancé à d'autres époques sur des objets spécifiques, d'autres chercheurs. Hein. Par exemple, pour ceux qui avaient pu travailler il y a 3 décennies sur la lecture, souvenez-vous des remarques de Donning et Fijalkov, justement, sur la lecture, hein, sur le fait que on se leurrait en pensant que les blocages de nombre d'élèves étaient des blocages techniques. Deuxième remarque, si on accepte l'idée qu'il existe différentes formes de littératie tributaires des différentes sphères socio-institutionnelles, il est impossible à l'école de viser l'apprentissage de toutes les formes de littératie. Il est impossible. Si on accepte aussi l'idée que ce qui caractérise l'école, c'est justement une rupture avec les situations d'apprentissage en relation directe avec le monde professionnel, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas sur le tas à l'école, c'est juste sur le cas, ça veut dire que l'apprentissage des cultures écrites se fait de manière relativement indirecte par rapport au monde social. Ça veut dire, si vous voulez, pour essayer de préciser ce que je dis, c'est que l'école vise à construire des cultures de l'écrit indirectement et au travers de sa propre culture, qui est la culture scolaire de l'écrit. C'est ça qui est visé. En d'autres termes encore, pour mettre les points sur les i, l'école ne vise pas la maîtrise de la lecture ou de l'écriture. C'est pas vrai. C'est faux. L'école ne vise pas la maîtrise de toutes les pratiques sociales de lecture ou d'écriture. C'est faux. L'école vise la maîtrise de pratiques scolaires de lecture et d'écriture. Lire ou écrire tels écrits, de telle façon. En espérant, en faisant le pari, que cela permettra de rentrer par la suite dans le maximum de culture écrite. J'ai rien contre ce pari, hein, mais encore faut-il l'avoir en tête. Mais ça a des conséquences importantes. Ça veut dire qu'il me semble difficile, si vous m'avez suivi jusque-là, si vous m'avez abandonné, tant pis. Mais si vous m'avez suivi jusque-là, ça veut dire qu'on ne peut pas interpréter le succès ou l'échec des élèves par rapport à l'écrit en général, mais par rapport à la culture écrite, à l'univers de l'écrit mis en place au sein de l'école. Ce qui signifie rendre la responsabilité à l'école de ses succès et de ses échecs et sortir de tout fatalisme dont l'école serait exclusive. Ça veut dire aussi analyser les pratiques scolaires du langage et de l'écrit qui sont mises en place, en sachant qu'il y a la possibilité de construire de multiples univers de l'écrit à l'école, mais que, bien souvent, il y a quelques caractéristiques, par exemple l'imposition, la surnormativité, l'évaluation permanente, le caractère très très formel de nombre de situations. Donc, si vous voulez, voilà. Pas, l'échec n'est pas un échec par rapport à la culture écrite, mais par rapport à une culture écrite mise en place par l'école, qu'il s'agit d'analyser en sachant que l'école peut mettre en place différentes formes d'univers de l'écrit. Ça, on le voit, voilà, au travers des différents pays, des différentes filières, des différents cursus, des différentes pédagogies. Il n'y a jamais rien de naturel ou d'évident de ça. Je précise que par univers de l'écrit, excusez-moi, j'aurais dû le préciser, j'entends, si vous voulez, la configuration construite et qui met en relation les écrits et les pratiques de lecture et d'écriture autour de ces écrits, hein, voire même pratiques d'oral autour de ces écrits. Si je pousse encore un peu plus loin, par rapport à nombre de discours ambiants sur l'échec, le langage et l'école, voire par rapport à un certain nombre de discours de chercheurs que j'aime bien par ailleurs, hein, mais l'univers de la recherche est un univers de discussion. Quand il n'y a plus de discussion, c'est que c'est mort. Voilà, c'est pour rien. Ça veut dire qu'on est loin des discours simplistes où les différences, simplement, de milieux sociaux, où la plus ou moins grande distance postulée à l'écrit serait source d'échec. Ces discours sont simplistes car il y a une unification fallacieuse à la fois des cultures populaires, qui seraient principalement orales, ce qui est une bêtise dans nos sociétés. Et en plus, les cultures populaires sont quand même très différentes. Je veux dire, de temps en temps, c'est intéressant, de la même manière que je conseille parfois à certains chercheurs de voir les élèves autrement qu'en photo. C'est aussi intéressant de voir les milieux populaires autrement qu'en photo. Bon. Et de la même manière, on ne peut pas parler de culture écrite scolaire au singulier. Elle varie selon les cursus, selon les disciplines quand même. On ne peut pas dire que la culture écrite scolaire en terminale S et en SECPA soit tout à fait identique. Sauf erreur de ma part, et là, bon, je suis prêt à regarder les données que vous avez à me présenter. Mais bon, voilà. Ce sont aussi des discours simplistes parce qu'on marque ces deux pôles en positif et en négatif. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dévalorisation des pratiques extrascolaires, y compris des pratiques langagières des enfants de milieux populaires. Bon. Et il y a une absence d'interrogation critique sur les pratiques scolaires, comme si elles étaient en soi bonnes et c'était elles qui permettaient de penser. Je pense qu'il y a certains collègues sociologues qui oublient le béaba de la sociologie quand ils avancent des trucs comme ça. Hein. Troisième remarque, donc, ce que je disais et je maintiens, il y a confusion des problèmes face à l'écrit et des problèmes face à l'écrit scolaire tel qu'il se construit ici et là dans telle partie du système scolaire. Donc voilà. Donc, avant d'aborder mon troisième point, j'ai été critique. Hein. Mais bon, je veux dire, je ne suis pas venu là pour qu'on s'embrasse les uns et les autres. Il me semble que le but d'un travail de chercheur est de faire en sorte que les gens, nous-mêmes d'abord en premier lieu, mais qu'on s'interroge, qu'on puisse réfléchir et qu'on puisse peut-être mieux formaliser nos accords, nos désaccords, etc. Hein, sachant que ce que je développe ici est une position, certes étayée sur des travaux que je mène et qu'on mène avec l'équipe depuis longtemps, mais n'est guère qu'une position possible. Hein. Un autre chercheur pourrait défendre d'autres thèses. Donc, voilà, ça vaut le coup de regarder très très précisément les thèses de chacun et ce sur quoi elle s'appuie, toujours. Donc, voilà, donc sachez que je sais bien que j'étais critique, alors avec le fait aussi que le temps dont on dispose et l'oral amène parfois à forcer le trait. Hein, avec, mais en même temps, bon, ça permet de discuter. Alors, j'en arrive au troisième grand point que j'annonçais, c'est-à-dire quelques éléments de réflexion sur les pistes possibles. Je vais essayer d'en faire, de réfléchir sur trois pistes, hein, c'est-à-dire mieux connaître les élèves, arrêter les a priori qu'on peut avoir. Bon, quelques principes didactiques autour des configurations et des visées et quelques principes pédagogiques. Alors, premier grand point, essayer de suspendre les a priori pour mieux connaître les élèves. Et je vais prendre donc deux exemples qui m'ont été soufflés par Sylvie, et donc vu que je l'aime bien, je fais ce qu'elle me dit. C'est la question du vocabulaire et du rapport à l'écrit. Alors, la question du vocabulaire, qui est effectivement une question intéressante, parce que c'est un des points qui revient le plus souvent dans les discours, voilà, sur les problèmes des élèves par rapport à la culture écrite au décrochage. Donc la pauvreté du vocabulaire comme facteur de blocage, d'incompréhension et finalement de décrochage. Alors, vous remarquerez, je commencerai par cette remarque, vous remarquerez que le monde est bien fait. Car dans ce type d'approche, les pauvres ont un vocabulaire pauvre. Moi, j'aime bien quand les choses sont claires et nettes. Voilà, hein, les riches, de leur côté, ont un vocabulaire riche. Et voilà, quand même, on ne peut pas soupçonner le Seigneur d'avoir commis là des erreurs. Quand même. Bon. Alors, donc, il s'agit de l'enrichir. Alors, je reviendrai là-dessus. Alors, avec une remarque que je ne développerai pas ici, néanmoins, c'est que cette pauvreté demeure à vérifier. C'est un vieux problème des sociolinguistes qui s'empaillent depuis des décennies là-dessus, puisque selon les situations, on n'a pas les mêmes résultats, si vous voulez. Et que souvent, ces résultats-là, c'est des situations obtenues dans des situations scolaires formelles. Bon, néanmoins, partons là-dessus, etc. En considérant néanmoins, en gardant à l'esprit que ce n'est pas à confondre avec la pertinence de l'usage du vocabulaire dans telle ou telle sphère communicationnelle. C'est-à-dire que de la même manière qu'un gamin peut être considéré en difficulté dans ses usages du vocabulaire en situation scolaire, si vous voulez, un académicien pourra peut-être être considéré en difficulté dans ses usages du vocabulaire en discutant avec des gens dans la rue ou n'importe quoi. Bon. En tout cas, et avant d'aller plus loin, je ferai une seconde remarque qui vous montrera à quel point j'ai mauvais esprit, c'est qu'effectivement, notre société considère qu'il est plus facile de tenter d'enrichir le vocabulaire des pauvres que de tenter d'enrichir les pauvres. Bon, voilà. Mais vous savez ce que c'est, les restrictions budgétaires, faut que... peut débloquer plus facilement des stocks de mots. Alors, mettons de côté donc ces remarques vraiment déplaisantes et déplacées. Donc, si on accepte, et pourquoi ne pas les accepter, au moins pour travailler le fait qu'il y a des problèmes de vocabulaire, comment peut-on travailler dessus? Comment pourrait-on enrichir? Globalement, il y a deux grandes stratégies qui existent. C'est procéder par des situations spécifiques. Voilà, on fait des plages sur le lexique. Ou alors, on va essayer d'articuler au maximum la question du lexique aux activités d'oral et d'écrit, et d'intégrer ça au maximum. Voilà, c'est les deux grandes stratégies qui existent. Après, ce sont des sous-stratégies pour le dire. Dans la première stratégie, celle des situations spécifiques, on a quand même des variantes pas inintéressantes. C'est-à-dire qu'on a une variante très classique quand même, qui est de procéder par des listes, plus ou moins thématiques. La deuxième variante étant d'essayer de travailler sur des réseaux qu'on peut constituer de différentes manières. Réseau sémantique, réseau structurel, de construction des mots, etc., etc. Bon. Ce sont les stratégies les plus fréquemment utilisées. Bon, avec des résultats qui ne semblent pas forcément, jusqu'à présent, déterminants à lire la littérature critique dessus. Donc c'est pour ça que j'avais collé une de mes étudiantes. C'est bien les étudiants pour ça, si vous voulez, parce qu'ils sont... Bon, alors, de temps en temps, ils se révoltent, mais pas toujours, donc voilà. Donc, j'avais collé une de mes étudiantes là-dessus, mais elle était venue me voir en me posant ces problèmes-là, ça l'intéressait, puisqu'elle enseignait donc dans un collège rare à Roubaix, et trouvait qu'il y avait des problèmes, et donc elle était d'entrée de jeu dans les stratégies de remédiation. Je lui ai dit non. Dans un premier temps, en recherche, on essaye de comprendre, et donc vous allez essayer de comprendre un peu ce que les élèves disent, pensent par rapport au vocabulaire, à son enseignement, etc. Donc elle a pris quasiment la totalité des... plusieurs classes de 6e, donc dans son établissement à Roubaix, donc une 60aine d'élèves. Et ça a fait un M2 qui est bien sur les relations que les élèves entretiennent avec le vocabulaire. Et je vous signale, pour ceux qui connaissent la revue Recherche, il va y avoir un article qui va sortir dessus. Donc je le dis parce que, quand les étudiants font un bon travail, il faut le signaler, c'est un vrai travail de recherche. Donc elle s'appelle Marion Bonnevie-Tessier, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Quels sont les trois grands résultats qui sortent de ces travaux? Le premier résultat, c'est que ce qu'on appelle au labo la conscience disciplinaire est floue. La conscience disciplinaire, c'est-à-dire la manière dont les élèves reconstruisent ou pas les disciplines. Vous voyez, pas parce qu'on fait du français, des maths, de l'EPS à l'école, que les élèves reconstruisent la discipline ou qu'ils la reconstruisent comme vous pensez. Ils peuvent avoir des formes de reconstruction très très différentes. C'est pour nous un des problèmes très très importants à côté duquel on passe. Vous avez par exemple à l'école primaire des élèves qui peuvent vous dire tiens, j'ai fait un contrôle, vous leur demandez sur quoi ou dans quelle discipline, vous dire je ne sais pas. Vous avez des reconstructions de disciplines au collège ou au lycée qui ne correspondent pas, si vous voulez, à ce qui est dit dans les textes officiels, à ce que veulent faire les profs, etc. Je vais juste vous donner deux exemples, vous allez tout de suite comprendre, si vous voulez. Après, c'est plus sophistiqué. Hein. On a maintenant 5 ans de recherche au moins dessus, etc. Mais par exemple, l'exemple classique, c'est le gamin de collège qui dit le français, c'est du baratin, quoi, il faut baratiner. Ça, vous avez tous entendu, si vous voulez. Il est clair que là, il y a un écart. Bon. Ou le lycéen qui dit en philo, l'important, c'est de donner son opinion. Bon, et régulièrement, il se chope une note au-dessous de la moyenne sans comprendre pourquoi. Bon. Donc, il y a une conscience disciplinaire floue de ce qui concerne le vocabulaire et son enseignement. C'est-à-dire que pour les élèves, le lien est parfois flou entre vocabulaire et mots. Ils peuvent dire, par exemple, plus que quand on parle de vocabulaire, c'est l'orthographe. Alors attention, s'ils disent ça, c'est pas sans rapport peut-être avec l'enseignement. Si on exclut l'hypothèse de la génération spontanée de la pensée, Toujours dans cette conscience disciplinaire floue, moins d'un élève sur 10 fait le lien entre travail sur le vocabulaire et compréhension. Ils savent très peu quand on enseigne le vocabulaire à l'école. Très peu. Leur grande conception, et vous allez retrouver des discours sociaux qu'on entend, c'est... Ouais, les mots, ça s'apprend finalement quand on lit, quoi. Ça finit par rentrer. Donc, il faut lire. Alors, de temps en temps, il y en a qui s'ennuient. Ils disent, moi, je lis, mais... Bon, et ils considèrent globalement que, sur ce domaine-là, comme sur bien d'autres, l'école est plus un espace d'évaluation que d'acquisition. Donc, première conclusion, au niveau de la conscience disciplinaire, c'est flou. Deuxième conclusion, il y a un vrai désir de ces élèves. C'est-à-dire qu'ils sont désireux d'apprendre et de comprendre des mots et que ça leur serve. Contrairement à ce que dit Bentolila, ils ont une attirance pour les mots rares ou compliqués. Ils considèrent qu'avoir du vocabulaire, c'est utile pour bien parler français, pour bien s'exprimer, leurs discours sont assez clairs et assez nets là-dessus. Troisième grande conclusion. Ils ont de multiples stratégies pour essayer d'apprendre, d'en apprendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent se faire des notes de lecture en relevant les mots qui posent problème. Ils peuvent aller voir dans les dicos. Ils peuvent demander aux adultes. Ils peuvent apprendre d'eux-mêmes des listes de mots. Ils peuvent se poser des questions entre eux. Et ils ont parfois des stratégies très complexes d'adaptation au milieu. Parce que, par exemple, certains disent, ouais, le problème aussi, c'est malgré tout, si on emploie des mots, voilà, qui sont plus rares et tout, voilà, on va se faire charrier par les copains, on va se faire traiter d'eux. Donc, ils jouent avec leurs amis à être des personnes qui emploient des mots compliqués. Oui. C'est-à-dire qu'ils se font, entre eux, des moments de jeu comme ça, qui leur permettent d'utiliser et de tester sans avoir l'air et avec une acceptation mutuelle qui est une compromis entre normes scolaires et normes du milieu. Voilà. Et c'est là que je vous abandonne sur le terrain du vocabulaire en disant, je vous rappelle que c'est vous les experts, le problème donc pour moi c'est à partir de ça, si on accepte ces résultats, il faut peut-être refaire d'autres études, c'est comment on fait fond sur ce véritable désir des élèves, c'est-à-dire comment on ne procède pas en l'ignorant, en faisant comme s'il n'était pas là, comment on clarifie l'enseignement, puisqu'il y a de l'enseignement qui se fait, mais ce n'est pas clair pour les élèves, donc comment on clarifie l'enseignement et comment peut-être on modifie les formes d'évaluation pour permettre à l'apprentissage d'avoir sa place. Et enfin, comment on fait pour faire émerger les multiples stratégies des élèves et comment on va essayer de les combiner avec les stratégies scolaires. Toujours dans ce même point, le rapport à l'écrit. On entend aussi beaucoup que le rapport à l'écrit des élèves des milieux populaires, à risque de décrochage ou décrocheur, serait plutôt négatif. Je ne vois pas bien sur quelles données empiriques cela se fonde. Puis j'ai exploré les trucs. Bon. Ce que les études un peu précises sur le sujet montrent, c'est qu'il existe un rapport précoce et investi, aussi bien des garçons que des filles, aussi bien des enfants de milieux populaires que des autres. Et notamment, il y a des pratiques d'écriture fréquentes et importantes en dehors de l'école. Je vous renvoie donc aux travaux plus anciens que ceux évoqués de Barré de Mignac quand il écrivait à l'INRP avec Françoise Croux et Ruiz, et aux travaux remarquables de Marie-Claude Panloux, qui est quand même, à ma connaissance, la seule à avoir fait une enquête massive sur les pratiques extrascolaires d'écriture des collégiens, c'est les collégiens et l'écriture, chez ESF, où elle montre l'importance et la diversité de ces pratiques d'écriture, que nous, on a vérifié après, avec mes étudiants, toujours en fonction des pouvoirs qui me sont attribués. Donc, hop, j'ai collé mes étudiants, la même chose au niveau de l'école primaire. Et ça a été confirmé avec de surcroît. Vous voyez, elle avait montré, par exemple, des choses marrantes. Elle avait montré qu'il y avait une écriture autobiographique qui existait dès le collège, c'est-à-dire avant le lycée, avant l'adolescence qu'on pensait, mais on a pu voir qu'elle existait aussi dès l'école primaire, dès l'entrée dans l'écrit. Donc il y a un rapport précoce et investi. Mais il y a un rapport problématique, il y a un rapport en tension. C'est-à-dire que, pour le dire vite, donc l'énoncé que je vais prononcer est à prendre avec des pincettes, plus on est dans un milieu populaire, plus il y a de risques de vivre des tensions entre écriture extrascolaire et écriture scolaire. Pourquoi ? Parce que l'écriture scolaire, extrascolaire plutôt, est vécue comme liberté, possibilité de s'exprimer. L'écriture scolaire est vécue, elle, comme imposition, comme contrainte, comme centrage sur l'orthographe, ce qui mène à ce que Jean-François Alté, à une autre époque, a pu appeler, à certains moments, le malentendu communicationnel. C'était, à ma connaissance, peut-être le premier à employer la notion de malentendu, que beaucoup utilisent sans forcément se rappeler d'où ça vient. Mais qu'est-ce qu'il disait par là? Il disait que nombre d'élèves se trouvaient dans l'institution scolaire pris entre consigne et évaluation. C'est-à-dire que, par exemple, dans les rédactions, dans les travaux d'expression écrite, la consigne disait à peu près, sous des formes différentes, « Parle-moi de ta vie ou parle-moi de tes rêves, cela m'intéresse. » Et à l'arrivée, répondait « Pas là-dessus, du tout. » Répondait sur l'orthographe, sur la syntaxe. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une distorsion entre consigne et évaluation. Alors, l'exemple que je donne toujours, pardonnez-moi, je vais reprendre cet exemple-là parce qu'il marche bien avec mes étudiants, ça leur permet de bien comprendre l'ampleur du problème. Donc, je le reprends, c'est le suivant. C'est, je suis avec ma femme, je lui dis, mon amour, parle-moi de ton enfance, de ta vie, tout ça, je t'aime, donc ça m'intéresse. Elle commet la bêtise de croire à ce que je lui dis, si vous voulez. Donc, voilà, c'est son problème. Hein. Donc, elle me raconte sa vie, son enfance et tout. Et je lui dis, quand même, t'as réussi à commettre deux fautes de français, tu vois. Et donc, là, vous voyez, les gens comprennent que si elle fait pas sa valise, c'est que vraiment elle m'aime beaucoup. Donc, je vous recommande ce test. C'est un test sympa. Mais vous voyez que on est là sur une sorte de paradoxe qui fait que, pour un certain nombre d'élèves, plus on s'investit à l'école, plus on risque de se faire ramasser, en quelque sorte. C'est-à-dire que les formes d'évaluation jouent contre les apprentissages. Ce qui explique en grande partie l'insécurité scripturale dont parle Michel Daben, ce qui explique aussi à certains moments des formes de décrochage. Face à cette violence-là, on s'investit moins, on se protège, etc. Donc, si vous voulez, là encore, le problème qui se pose, c'est comment articuler l'enseignement à ce désir dont on sait qu'il existe et qui se manifeste en dehors de l'école. Comment articuler ça à cette insécurité? Comment faire en sorte que les formes de l'univers de l'écrit mis en place à l'école ne jouent pas contre ce désir d'investissement? Cela m'amène donc au deuxième grand point de cette dernière partie, sur les principes didactiques. Bon, globalement, je crois qu'il importe peut-être de réfléchir aux visées et aux configurations qu'on met en place. Par visée, je veux dire, voilà, on peut avoir des visées très très différentes en enseignant l'écrit, en mettant en place des univers de l'écrit. Dans les textes officiels, vous avez par exemple à tel niveau, l'enjeu c'est d'apprendre à écrire un texte de 10 lignes ou de 20 lignes à peu près correctement et sans faute d'orthographe. Un des piliers de l'école qui pratiquait la pédagogie Freinet et qu'on a suivi pendant 5 ans, hein, donc en milieu très très populaire, hein, dans le rare de Mont-Saint-Barœul, Marcel Torel disait, moi mon problème c'est pas celui-là. Il disait, moi mon problème c'est que ces enfants-là s'autorisent à écrire. Voilà. À partir de ça, vous voyez que voilà, les problèmes vont être construits, je crois, différemment. Et je crois qu'il est important de voir finalement quelles sont les visées qu'on estime prioritaires et pourquoi. Alors, petite parenthèse, avec ce genre de principe, La longueur des écrits des élèves est une des choses qui a bougé le plus vite dans cette école. C'est-à-dire qu'on est passé de textes de 10 lignes à textes de 50, 60, 100 lignes. Au niveau orthographique, si vous calculez en pourcentage de mots fautifs, difficile que ça baisse immédiatement, hein, vu l'augmentation massive du nombre de mots. En revanche, au fil des années, oui, ça s'est amélioré. Donc, vous voyez, bon, ça permet de réfléchir. Mais du coup, ça veut dire aussi, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on met en place comme univers de l'écrit ? C'est-à-dire, quels sont les écrits qu'on met en place dans sa classe, plus ou moins diversifiés, qui les amènent ? Quels écrits on fait rentrer ? Est-ce que ce sont des écrits fabriqués en dehors, fabriqués par le maître, fabriqués par les élèves et tout ? Quels outils on met en place dans sa classe ? Vous voyez, par exemple, j'ai toujours été intéressé par le développement des effaceurs. Ça veut dire que les maîtres et les élèves ont dans l'idée que c'est quand même mieux d'effacer les erreurs. Voilà, ça mérite au moins 30 secondes de réflexion, si vous voulez, sur ce qu'il y a derrière cette conception, si vous voulez. Bon, les activités, quelles activités on met en place ? Hein ? Est-ce que c'est les élèves qui mettent en place les activités de l'écrit de leur propre chef, ou les maîtres, ou est-ce qu'il y a des compromis, des échanges ? Est-ce que c'est des écrits plus ou moins ouverts ? Est-ce que tous les élèves font la même chose en même temps ? Est-ce que si tous les élèves font la même chose en même temps, c'est tenable par rapport à ce qu'on sait des modalités d'apprentissage des élèves ? Est-ce qu'on met l'accent sur la coopération ou la compétition ? Et pourquoi ? Si vous voulez, attention, hein, entendons-nous bien. Je ne suis pas sur des principes idéologiques. Je ne suis pas sur des principes idéologiques. Je ne me présenterai pas aux élections, ça ne m'intéresse pas. Je suis sur des principes d'efficacité par rapport aux apprentissages, hein, quand je dis ça. Quelles sont les fonctions de l'écrit que je mets en place ? Est-ce que ça sert à répondre aux intérêts des élèves ? Est-ce que ça sert à valoriser ? Est-ce que ça sert à apprendre ? Est-ce que ça sert à s'exprimer ? Est-ce que ça sert à communiquer ? Ou est-ce que ça sert à autre chose ? Par exemple, curieux univers de l'écrit scolaire, parfois, où on dit, discours du maître, l'écriture, c'est la liberté, il faut que vous en parliez. Et oh, toi, tu commences à m'emmerder, tu vas me faire 100 lignes. Où je peux donner des punitions collectives qui passent par l'écriture. Attention, c'est une arme dans la panoplie du maître. C'est une arme. En même temps, on ne peut pas l'utiliser sans penser à ce qu'on instaure au sein de l'univers de l'écrit qu'on installe. Donc voilà, je pense que ceci mérite pour le moins d'être réfléchi. Je conclue ma communication sur deux ou trois principes pédagogiques. Je vais vraiment la conclure en 5 minutes dessus, qu'on ait le temps un peu de discuter, que vous ayez le temps de protester et tout. Il me semble que bien souvent dans l'école, dans les pratiques pédagogiques dominantes à l'école, on ne prend pas suffisamment en compte l'existant, c'est-à-dire que font les élèves ? Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Quelles sont leurs conceptions ? Ce que j'évoquais à propos du lexique ou du rapport à l'écrit. Voilà. Je trouve que c'est se priver d'un matériau extraordinaire. Je veux dire que, par exemple, dans notre filière de master, si vous voulez, on ne laisse travailler aucun étudiant, même si, y compris si c'est un professionnel, c'est-à-dire enseignant, conseiller pédagogique, on ne les laisse pas travailler directement sur les interventions. On leur demande d'abord de regarder, d'analyser, d'essayer de comprendre. Ils en ressortent tous, c'est le truc qu'ils retiennent de cette formation, et pour lesquels ils nous remercient. Sur d'autres points, ils peuvent être critiques, mais là-dessus, ils disent, voilà, j'oublierai pas ça, j'ai appris, voilà. Et sur des trucs, voilà, mais basiques. Hein. Je vais vous donner un autre exemple, par exemple, de ce sur quoi on fait travailler nos étudiants quand je dis ça. C'est, qu'est-ce que ça veut dire comprendre ou ne pas comprendre pour un élève ? Ben voilà, vous y réfléchirez. Et vous verrez que vous pouvez avoir, vous avez dans les BU là, vous avez des rayonnages sur les modèles de compréhension. Très intéressant, hein, très très intéressant, très sophistiqué. Vous avez quasiment pas une page sur, pour les élèves, selon les matières, selon les trucs, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on estime que comprendre, c'est pas inintéressant à l'école, peut-être que, ça fait partie du genre de choses sur lesquelles on travaille, qu'on trouve intéressant, que les maîtres qui travaillent avec nous trouvent intéressant. En tout cas, ça permet aussi de pas partir sur des fausses bases et de blesser les gens en pensant qu'ils pensent ceci ou cela ou qu'ils ne savent pas faire ceci ou cela, alors que ce n'est pas le cas et que souvent, il y a une richesse... une richesse de pratique qui vraiment intéressante. La deuxième chose sur laquelle j'insisterai en termes de principe pédagogique, c'est donner du temps. Donner du temps. L'école française est une école qui n'arrive pas à donner du temps. Alors, l'exemple peut-être le plus typique, mais je veux dire, si on parle de culture écrite. Hop, on va commencer tôt par rapport à d'autres pays. On va les faire rentrer tôt, hein. Vous ferez remarquer qu'il y a des pays qui font rentrer, par exemple, un an plus tard dans la lecture. Les résultats sont loin d'être négatifs pour ces pays, hein, comparés à ceux de la France. Donc, on va gagner du temps, ils vont commencer tôt. Bon. Normalement, là, ça change. Hein, mais avant, l'apprentissage, c'était une question de cycle. Hein, de cycle. Le nombre d'écoles où ça fonctionnait véritablement, l'apprentissage de la lecture par cycle... est assez réduite dans celle qu'on a pu regarder. C'est-à-dire que globalement, bon, les maîtres de grande section, ils sont un peu... Hop, ils commencent. Et puis, c'est en CP. Et en CP, globalement, à Noël, on s'inquiète. Et à Pâques, on est dans la catastrophe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas donner le temps. On ne sait pas donner le temps. Hein. Moi, je me rappelle avoir discuté avec une vieille maîtresse qui travaillait, enfin une vieille enseignante, hein, pas de confusion, qui travaillait en pédagogie alternative et qui n'était pas commode. Hein, elle n'était pas commode. Là, pour vous donner une idée, elle disait, moi, tous les soirs, je fais un mot aux parents pour leur dire ce que j'ai fait dans la journée avec les élèves. Tous les soirs, ils ont le descriptif. Mais du coup, ceux qui ne sont pas contents, ils peuvent changer de crèmerie, hein, c'est leur droit. Hein. Et les parents mouffetaient pas. Mais elle, sa position était, mais l'élève, il rentrera dans la lecture quand il sera prêt. Et elle n'avait aucun souci de ce point de vue-là. Du coup, les parents étaient très sécurisés. Ils savaient que oui, tous les gamins allaient rentrer dedans. Et les élèves étaient très sécurisés aussi. Puisqu'il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Et qu'il y avait le temps. Et voilà, c'est... bon. Donc, ça mérite au moins d'être réfléchi. Pourquoi ? Moi, j'ai vu... Enfin, il y a quand même des écoles où vous avez des maîtres, par ailleurs, très, très bien. Très, très bien. Vous voyez ?
Mais il y a une énorme pression à l'heure actuelle sur la réussite scolaire. Les parents veulent bien entendre ça, mais du coup,
mais bien sûr.
Très préoccupés.
Mais bien sûr. 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 Mais je pense que tout le système est responsable. Je pense que tout le système est responsable. Chacun ayant sa part dans ses fonctionnements. Mais vous avez raison. Mais, si vous voulez, je crois que ça ne peut que qu'engendrer effectivement des dysfonctionnements si on ne sait pas donner le temps des apprentissages. Et donc, voilà, le temps. Mais c'est aussi, par exemple, le temps de conception ou le temps de maturation. Par exemple, j'ai toujours été étonné que dans un certain nombre de classes, voilà, les élèves arrivent et puis on leur donne les sujets à ce moment-là. Et ils ont un temps limité. Et on ne donne pas forcément les sujets à l'avance, qu'ils aient le temps d'y réfléchir, de maturer dans leur tête et tout. Est-ce que l'enjeu est qu'on les évalue et qu'on fasse des différences entre eux ou de leur donner les meilleures formes possibles d'apprentissage? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Même chose, dans le temps, c'est le temps du travail de reprise et d'élaboration. Est-ce qu'on considère que l'écrit se travaille en un jet ou est-ce qu'il faut avoir le temps de réécriture qui permet de ne pas se centrer sur tout? Donc, si vous voulez, et le temps de finir, excusez-moi, j'insiste là-dessus, le temps de finir. Nouveau paradoxe, dans nombre de classes, le maître dit, et il en est convaincu, que le travail qu'il donne est important, il faut le faire. Et on arrête avant que tout le monde ait fini. Ben merde, si c'est important, il faut laisser le temps de finir. Sans ça, il faut dire que ce n'est pas important. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des paradoxes en actes cumulés et dont on ne se rend pas forcément compte de l'importance que ça peut prendre. Ce qui fait qu'il y a des gamins qui, effectivement, vous disent ouais, « De toute façon, c'est pas forcément important que je finisse. Hein. » De la même manière que dans les dialogues avec le maître, il y a des gamins qui vous disent tranquillement, moi j'attends de toute façon qu'il donne la bonne réponse, il va la donner, c'est pas la peine de se casser la tête. Hein. Et c'est effectivement le cas. Les élèves sont souvent des analystes très très lucides des situations scolaires qu'on met en place. Bon. Troisième point, et je m'arrêterai là-dessus, c'est la question de l'erreur. Bon. Alors ça me plaît bien, bon, moi je travaille depuis très très longtemps sur l'erreur. Hein. En décembre, je sors un bouquin dessus. Donc, je vous le signale parce que pour vos cadeaux de Noël, souvent, on n'a pas d'idée et c'est quelque chose, voilà, à quoi les autres ne pensent pas. Donc, ils sont surpris. Heureusement ou pas, je ne sais pas. Mais donc, voilà. Alors, l'erreur est quelque chose qui m'intéresse à l'école parce que ça continue souvent, pas toujours, mais à être fustigé, à être stigmatisé, si vous voulez. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous parlais de l'effaceur. Mais vous avez le nombre de classes aussi où le maître va effacer très vite au tableau si l'élève s'est trompé. Voir si lui-même a commis une erreur. Il efface, il s'en tire par une boutade, etc. Et l'erreur est finalement ce qu'il faut éviter à l'école, si vous voulez. Alors, c'est un vrai problème. Parce qu'à l'arrivée, vous avez une chose qui est quand même, dans les enquêtes internationales, il y a un point commun sur les élèves français, c'est la peur de se tromper. Ce qui fait que parfois, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas, parfois. Alors, attention, je vais lever une ambiguïté. Je ne suis pas pour les slogans type, voilà, c'est bien de se tromper. Ça, c'est des conneries pour moi, si vous voulez. Je ne vois pas pourquoi l'école encouragerait le fait de se tromper. Je ne vois pas pourquoi. Et en plus, c'est dangereux dans certaines matières. Hein. En sport, en atelier, il y a des erreurs qui peuvent coûter cher. Mais, en revanche, considérer que l'erreur est structurellement attachée aux apprentissages, c'est-à-dire qu'on apprend rarement sans se tromper, et que donc l'école peut raisonner sur le fait que c'est une quasi-nécessité et que donc le problème n'est ni d'encourager ni de stigmatiser, mais de réfléchir, de travailler dessus avec l'idée que si les élèves commettent des erreurs et s'ils ne sont pas fous, ça peut arriver, j'ai des noms, mais s'ils ne sont pas fous, c'est qu'il y a une logique qu'il s'agit de reconstruire. Hein. L'exemple classique qu'on donne toujours, mais je l'aime bien parce qu'il est clair, c'est le gamin qui dit « le plafond s'émiette, j'ai mis ENT à s'émiette parce qu'il y a pas mal de miettes, c'est le pluriel. » C'est une logique sémantique. Une bonne partie de la grammaire qu'on enseigne à l'école est une grammaire sémantique. Hein. Donc, je veux dire, ça se défend. Bon. Et donc, vous voyez, après, c'est un travail intéressant là-dessus, de voir... Qui commet des erreurs? Sur quoi? Est-ce qu'il y en a que beaucoup de personnes commettent? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça permet un travail dessus. Hein. Je vous signale que dans certains secteurs professionnels, on fait des cours sur les erreurs les plus fréquentes. tellement c'est quelque chose d'important pour justement permettre de réfléchir dessus. En tout cas, voilà ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a, à mon avis, il n'y a pas d'apprentissage possible sans prise de risque. Et si l'évaluation sanctionne les erreurs, les élèves ne prennent plus de risques et n'apprennent plus, puisqu'ils vont répéter ce qu'ils savent faire. Et les travaux sur les brouillons des écoliers sont implacables dessus. Une partie de ce que les élèves corrigent avant de rendre les copies au maître, c'est les choses dont ils ne sont pas sûrs. Du coup, il n'y a plus de possibilité d'intervention dessus pour aider les élèves à surmonter leurs problèmes. Voilà, je vous remercie de votre attention.